La promesse la plus réconfortante de la Bible. La promesse la plus réconfortante de la Bible. Alors, comme on le sait, aujourd'hui, c'est un jour important dans le calendrier chrétien, car c'est aujourd'hui que nous célébrons Pâques. Et Pâques, bien entendu, c'est le jour où nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il y a de multiples implications pratiques sur la résurrection de Jésus, et une des implications est celle-ci. S'il est ressuscité et qu'il est au ciel aujourd'hui, cela veut dire, bien sûr, qu'il est vivant et que selon sa promesse, il est maintenant littéralement présent aujourd'hui également. Alors, je n'invente rien, je vais simplement vous lire un verset, enfin trois versets. Matthieu 28, 18 nous dit ceci. Jésus s'étant approché, donc il est ressuscité, d'accord ? Il parle en tant que ressuscité. Et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, tenez-vous bien. Jésus dit ceci, les dernières paroles dans le livre de Matthieu, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en tant que ressuscité, il dit ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors là, on dit, waouh ! Mais la réalité quotidienne des hommes est que les vallées de la vie sont bien sombres parfois. Nous expérimentons tous des nuées de découragement de temps à autre lors de notre voyage de vie. Il y a des moments où nous nous sentons submergés avec un sentiment de désespoir et une incapacité de pouvoir faire face aux pressions et aux problèmes qui nous affrontent dans la vie, mais aussi dans le ministère. Comme un commentateur Wayne Mack le dit, je cite, « Il est quasi impossible de vivre dans ce monde déchu sans expérimenter des situations dans lesquelles nous ne sommes pas tentés au découragement. » Mais oui, les problèmes de la vie sont multiples, on le sait. C'est peut-être un problème de santé. Pour nous, ou pour quelqu'un que nous aimons, ou pour un membre de notre propre famille. C'est peut-être le fait d'être critiqué, voire ridiculisé au travail, ou être abusé par un collègue ou par un membre de sa famille. Ou bien c'est un échec personnel, ou une habitude de péché qui vous envoûte. Ou bien peut-être ce sont les événements du monde qui vous découragent. Ou bien des problèmes dans votre famille ou dans votre église. Bref, il y a tellement de problèmes possibles dans la vie et dans le monde. Et que ce soit maintenant que ces problèmes vous frappent ou plus tard, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné dans la vie, les problèmes vous frapperont. On peut penser parfois qu'on est l'exception, mais c'est douteux, parce que Jésus l'a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est une certitude. Comment donc faire face à ces problèmes certains ? Nous avons besoin d'une assurance particulière que seul Dieu peut nous donner. Et donc ce matin de Pâques, j'aimerais attirer votre attention à ce que je considère peut-être être la promesse la plus encourageante et la plus réconfortante de toute la Bible. Alors, c'est fort ce que je suis en train de dire, d'accord ? Il y a beaucoup de promesses. Mais celle-ci, elle est quand même incroyablement géniale. C'est une promesse à laquelle il faut constamment revenir. Tellement elle est merveilleuse. Et cette promesse est encourageante, très confortante et vraie. Et j'espère qu'elle le sera pour vous aussi. Alors la voici. La voici. Hébreux 13, 5. On va faire qu'un verset aujourd'hui. En fait, on va faire la moitié d'un verset vraiment. Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Une promesse incroyable. Je lis. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Voici la promesse. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Matthew Henry, un autre commentateur, dit ceci à propos de cette promesse, nous avons ici la promesse qui contient la somme et la substance de toutes les promesses de Dieu. Alors, cette promesse est intéressante. Notons la première chose à noter, c'est que cette promesse est une citation. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de citer l'Ancien Testament et des promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, ce que nous voyons, en creusant un peu plus, c'est que la promesse de Dieu d'être avec son peuple est une promesse et un thème répété souvent dans l'Ancien Testament. Et il nous est rappelé justement pour nous encourager sur ce point précis. Alors, je vous donne quelques exemples, d'accord ? Par exemple, Isaac, dans Genèse 26-24, Isaac est au milieu d'une immense querelle avec d'autres bergers concernant des puits d'eau. Ils ont un problème. Voilà, le problème, c'est les puits d'eau. Alors, certains bergers voulaient les puits, mais il n'y avait pas assez d'eau pour tous les bergers. Gros problème, c'était un moment d'incertitude, d'envie, de dispute, de conflit de territoire. Bref, Dieu réconforte Isaac d'une manière intéressante, voire surprenante. Il lui assure qu'il serait avec lui. Dans Genèse 26, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et ça, c'est au milieu du conflit avec les bergers. Et c'est intéressant de noter que Dieu ne résout pas immédiatement le conflit sur le champ pour Isaac, mais il lui assure qu'il serait avec lui. C'est ça la promesse de Dieu. Je serai avec toi dans le problème. Jacob est un autre bon exemple dans Genèse 28:15. Vous vous rappelez que Jacob, par une machination avec sa mère Rebecca, a réussi à voler le droit d'aînesse et la bénédiction de son propre frère Ésaü. Ésaü veut maintenant tuer son frère Jacob, selon Genèse 27:41. Et donc Jacob fuit. Jacob a tort. Il a volé ce qui n'était pas à lui. Il prend la route pour Charan, pour se réfugier auprès de son oncle. Il s'arrête pour la nuit à Beersheba, où il a ce rêve célèbre d'une échelle avec des gens, des anges qui montent et descendent. Jacob est dans le trou noir de sa vie. Il vient de pécher gravement contre son frère et son père. Il est déprimé, solitaire. Il est engouffré par le péché. Il est au fond du baril. Il est rempli de regrets par rapport à son passé. Il est rempli d'anxiété vis-à-vis de son avenir. Que va-t-il devenir ? Et c'est là que l'Éternel lui apparaît. Dans Genèse 27:13, on lit ceci. Ah non, allez voir. Ah oui, c'est ça. 28:13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Il est au fond du trou. Et Dieu lui dit, je suis avec toi, dans le trou. Moïse, Deutéronome 31:6. Moïse est en train d'encourager les Israélites juste avant qu'ils pénètrent dans la terre promise. Ils devaient chasser, éliminer les peuples impies et idolâtres qui occupaient cette terre. Ils ont peur. Alors qu'est-ce que Moïse dit au peuple ? Deutéronome 31:6. « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » De nouveau la même promesse, « Je serai avec vous. » Josué est pareil, dans Josué 1:5, Moïse est mort et c'est Josué qui doit maintenant terminer la tâche de mener le peuple dans la terre promise. Il a besoin d'encouragement et dans Josué 1:1-5, Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Salomon, pareil, dans 1 Chronique 28:20. Salomon qui est tétanisé par le travail de devoir construire le temple. Vous rappelez, David allait construire le temple, mais il était indigne pour le faire et donc c'est son fils qui allait le faire. Alors Salomon est là, il dit, « Waouh, je dois construire un temple. » Et que lui dit son père David concernant le travail accompli ? À accomplir dans 1 Chronique 28:20, je cite, « David dit à Salomon son fils, Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Israël, Ésaïe 41, 10 et 17, Israël se sent fébrile et affaibli, entouré de pays idolâtres. Ils ont peur. Alors comment est-ce que Dieu les encourage ? Ben dans Ésaïe 41, 8 à 10, « Mais toi, Israël, mon serviteur, ne crains rien, car je suis avec toi. » Pareil dans Agé 1, 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Je ne sais pas si vous commencez à capter, là. La promesse qui revient sans arrêt dans l'Ancien Testament est celle de la présence de Dieu. Il dit ceci, « N'aie pas peur, virgule, je suis avec toi. » Voilà la promesse. Alors, avec ça, allez à Hébreux 13, 5 avec moi. Hébreux 13, 5. Parce qu'ici, nous retrouvons la même promesse, mais pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, rien ne change. C'est ce qu'il dit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, l'Épître aux Hébreux est une lettre écrite à des chrétiens juifs du 1er siècle, qui étaient sous persécution intense pour leur foi et qui faisaient face au stress et à l'affliction liée à la persécution. Je pense que la plupart de nous, on n'a jamais connu ça. On ne sait pas ce que c'est de devoir se lever le matin et se dire « Waouh, aujourd'hui, je pourrais être mis en prison pour ma foi. » Eux, oui. Certains avaient été désavoués par leur famille, avaient déjà perdu leur emploi, ils avaient des problèmes financiers, perte de propriété, moquerie publique, emprisonnement. Et pour certains, même la perspective du martyr. Du coup, ils étaient découragés. Imaginez, il faut essayer de s'imaginer dans cette situation. Ils sont découragés, ils sont accablés, ils sont tristes, ils sont abattus. Et pour certains, ils avaient perdu l'espoir. Et ils rentraient dans une phase dangereuse où ils pouvaient tout simplement s'écarter ou voir abandonner Christ et retourner au judaïsme. Pendant les persécutions en France, des protestants, dans les années 1600, 1500, 1600, ben, beaucoup, malheureusement, ont abandonné la foi parce que c'était dur. Ils ont abjuré. Mais beaucoup n'ont pas abjuré. C'est compliqué. Alors là, on comprend mieux maintenant le contexte immédiat de ce verset, dans le verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. » Donc ici, le contexte, c'est l'argent. Voyez-vous, beaucoup de ceux qui... à qui fut écrit cet épître, avaient perdu la plupart, sinon presque toutes leurs possessions à cause de la persécution. Et ça, on le sait parce que le chapitre 10 et le verset 34 nous dit ceci. « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. » Excusez-moi, j'ai besoin d'un mouchoir. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir qui pourrait me prêter ? En papier, donc. Merci Bibita, c'est gentil. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ah oui, non, il faut que je fasse comme ça. Donc, comme je le disais, beaucoup de gens avaient perdu la plupart, sinon tout leur bien. Et donc, au milieu du feu, certains se demandaient si le prix à payer en valait la peine. Ils ont tout perdu, ils disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir perdu tout ça pour ma foi ? Voilà où ils en étaient. L'amour de l'argent, sacrifié quelque part, surgissait en eux. Ils disaient, mince, que j'ai tout perdu, pourquoi ? Alors ce texte leur dit quoi faire ? Ne vous laissez pas tenter, le sacrifice en vaut la peine. Voici ce que le verset nous dit. Et en fin du verset, Dieu a dit lui-même qu'il ne t'abandonnerait pas, il pourvoira tous tes besoins. Donc le but de l'épître de Hébreux est celui d'encourager les chrétiens juifs de persévérer, de ne pas abandonner, afin de redynamiser leur foi. Et donc, cette promesse est là pour nous aussi, pour redynamiser notre foi. Elle est là pour nous être un encouragement aussi, et surtout pendant les périodes les plus difficiles de notre vie. Il y a un dicton en anglais qui dit ceci, cite, « Nous pouvons vivre plusieurs semaines sans nourriture, nous pouvons vivre plusieurs jours sans eau, nous pouvons vivre plusieurs minutes sans oxygène, mais nous ne pouvons pas vivre que quelques secondes sans espérance. » Et donc, ce verset nous donne cette espérance. Dieu sait que cela est vrai de nous. C'est pourquoi il nous a donné cette promesse précieuse, cette parole d'assurance qui nous rappelle que nous sommes ancrés dans l'espoir. Et Dieu souhaite que nous restions solides, ancrés en lui, quelles que soient nos circonstances. Voilà la clé. Quelles que soient les circonstances difficiles par lesquelles nous passons, il veut qu'on soit ancrés par rapport à ce qu'il nous dit ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de considérer, de contempler ensemble cette incroyable promesse qui se trouve dans Hébreux 13, 5, et on va examiner que 9 mots ce matin, d'accord ? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et nous allons découvrir que Hébreux 13, 5 est réellement une mine d'or. Nous allons creuser dans cette mine et en ressortir ce matin 3 pépites d'or précieuses constituées d'un mot chacune qui nous seront, j'espère, un immense encouragement. Alors, creusons et trouvons la première pépite. Pépite. Premièrement, numéro 1, jamais, jamais. Vous pouvez passer au prochain slide. Ah, d'accord, ouais, ben, vous arrivez à voir là ou pas trop? C'est pas grave. Jamais. Alors ce verset, dans la version seconde, dit ceci. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais la Bible du semeur le dit comme ceci, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, non, je ne t'abandonnerai jamais. Alors dans l'original, et c'est ce qu'on voit derrière moi, on voit le verset en grec en haut, et ensuite avec les mots français en dessous. Et donc littéralement, on pourrait lire, jamais pas, toi je délaisserai, ni jamais pas, toi j'abandonnerai. Je répète. Jamais pas toi je délaisserai, ni jamais pas toi j'abandonnerai. C'est pas du très bon français, mais c'est du très bon grec. D'accord ? Alors, ce qui frappe aux yeux, c'est que nous voyons que ceci n'est pas un jamais ordinaire. Les grammairiens nous disent qu'il y a ici une intensification surprenante du jamais. En fait, le jamais ici est une combinaison de deux mots en grec, ou, oun et mais. D'accord ? Donc le ou là, c'est en grec, et l'autre mot juste à côté, c'est un mais en grec. Alors le « ou », le « oun », parfois aussi écrit « ouk », veut dire « pas ». Je vous donne un exemple. Dans Matthieu 4, 4, je cite, il est écrit « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est le mot « pas ». Donc en grec, c'est encore mieux dans l'original parce qu'il dit « pas par le pain seulement l'homme ne vivra-t-il ». Donc il commence avec le « pas » pour dire « écoutez, le pain, ce n'est pas la clé ». C'est la parole de Dieu, d'accord ? Donc ça, c'est ce que Matthieu 4, 4 nous dit. Mais le deuxième mot, « mais », veut aussi dire « pas » en grec. Ce mot rend négatif une affirmation faite. Par exemple, dans Matthieu 6, 2, il dit ceci, « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette. » Donc, « ne sonne pas la trompette. » Donc, il ne faut pas sonner la trompette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux négations ensemble ici. Et lorsqu'on met ces deux négations ensemble, cela rend la négation encore plus forte. Comment traduire cette double négation ici ? Jamais pas. Il y a plusieurs. Les traducteurs choisissent un petit peu à leur sauce la traduction. D'accord ? Il faut essayer de trouver les nuances en grec. Alors voici les possibilités. Puisqu'il y a deux négatifs, non, non, pas, pas, jamais, jamais, non, pas, jamais pas, non jamais. Vous pouvez choisir. Le but ici, c'est qu'il y ait une double négation. Mais ce n'est pas tout. Car dans cette courte phrase en grec, qui contient que juste 9 mots, deux fois ces deux mots sont utilisés. Regardez. Ou mais, jamais pas, deux fois, en 9 mots. Connecté d'un autre négatif, Oud, ni. Ça fait beaucoup de négatifs, franchement, pour une petite phrase comme ça. Donc, si on devait traduire la phrase, on devrait la traduire comme ceci. Quelque chose comme « Jamais, jamais, je ne ferai ceci, ni jamais, jamais, je ne ferai ceci. » Voilà ce qu'il est en train de dire. En fait, 57% de la phrase sont des négatifs pour souligner le fait que jamais, jamais, ni jamais, jamais, ne fera-t-il une telle chose. Donc, si on voulait amplifier la phrase, on pourrait l'amplifier de cette manière. Là, j'invente une amplification de cette phrase que vous avez là. Jamais, mais jamais, mais vraiment jamais, et jamais encore, est-ce que je te délaisserai et je t'abandonnerai. Voilà ce que cette phrase est en train de dire. Bien-aimé, là, on a une pépite d'or qui renforce et intensifie la promesse. Et ce qui est d'autant plus incroyable est de se rappeler que ceci est une citation de Dieu lui-même. Parce que regardez ce qu'elle dit dans cette promesse dans le verset 15. « Car Dieu lui-même a dit, et ensuite, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ou jamais. » C'est donc Dieu qui affirme sa propre promesse. Il se cite, c'est comme si Dieu se cite de ce qu'il avait déjà dit dans l'Ancien Testament. C'est comme s'il disait « Annoncez clairement et fortement comme quoi mon intention de vous quitter est nulle. Abolissez l'idée de mon abandon de votre esprit et éliminez cette idée de vos pensées. » Voyez-vous, ces cinq négatifs utilisés dans cette phrase soulignent l'impossibilité que Dieu déserte les croyants. Il est en train de dire qu'il y a absolument aucune possibilité que je ne vous abandonne jamais de la vie. Alors, est-ce qu'on saisit la portée de cette promesse? Jamais. Mais jamais. Vraiment jamais. Mais absolument jamais ne vous abandonnerai-je jamais de la vie. Nous connaissons tous probablement des couples mariés depuis longtemps qui s'aiment profondément. Nous les voyons se tenir la main, s'embrasser, rire ensemble, aimer leurs enfants, partir en vacances, vivre leur vie heureuse. Puis un jour, au désarroi le plus total de tout le monde, nous apprenons la nouvelle. Il quitte sa femme ou elle quitte son mari. Souvent pour un autre homme ou une autre femme. Des vies sont brisées pour toujours, et là, on les touche bouche-bée. Chers amis, sachez que Dieu ne nous quittera jamais de cette manière. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. » Non, Dieu ne va jamais déserter ses siens. Et sache que Dieu ne t'a pas quitté, car le jamais inclut le maintenant. Si c'est jamais, ça veut dire que c'est jamais, avant, maintenant, plus tard, jamais. Il est avec toi maintenant, et ça, mes amis, devrait stabiliser mes pensées troublées, et m'aider même dans mes émotions. Alors voici la première pépite d'or de cette promesse, jamais. Mais il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Délaisserai. Deuxième pépite. Car Dieu lui-même, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Alors ce mot délaisser, c'est quoi? Le mot délaisser en grec, aniemi, veut dire lâcher, relâcher, défaire ou se désister d'eux. Il y a un bon exemple dans Actes 16 pour décrire les chaînes d'un prisonnier rompu. Dans Actes 16, 26, et les liens, donc les chaînes de tous les prisonniers furent rompus. Un ange vient et ting! Toutes les chaînes sont rompues. Dans Actes 27, 40, le mot décrit l'ancre d'un bateau. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer. Tac, ils ont coupé parce que le bateau coulait, donc il fallait enlever du poids. Tac, ils coupent l'ancre, couf, ils tombent dans la mer. Donc, ce qui est intéressant, ce mot, c'est le mot délaisser. Et ici, la promesse est que je ne te délaisserai jamais. Donc, ajoutons ceci à notre traduction amplifiée. Jamais, mais jamais, mais vraiment jamais, mais absolument jamais ne vous lâcherai-je, ne vous détacherai-je, ne vous relâcherai-je, ne romprai-je les liens entre vous et moi, jamais je ne vous délaisserai, jamais de la vie. Voilà ce qu'il dit. Écoutez, c'est quand même une promesse intéressante. Je pense qu'elle devrait calmer nos cœurs. Alors nous, pendant des années, on avait un chat à la maison. Elle s'appelait Duchesse. Ça, c'était peut-être un tort. On n'aurait peut-être pas dû l'appeler Duchesse, parce qu'elle se prenait vraiment pour une duchesse. Mais Duchesse a toujours été là. Elle avait ses habitudes. On connaissait ses miaules parfaitement, heureux ou fâchés, parce que vous savez que les chats peuvent être heureux, mais aussi peuvent avoir un petit coup de colère de temps en temps. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les chats. Par exemple, si on ne la nourrissait pas à l'heure, elle n'était pas heureuse. Elle nous le faisait savoir. D'accord. Alors j'essayais de communiquer avec elle en miaule, mais j'avais de la peine, d'accord. Alors elle dormait sur les lits des enfants. Alors on pouvait la caresser lorsqu'elle dormait sur le lit. Mais d'essayer de la prendre, alors ça, elle ne supportait pas. D'accord. Elle partait, toute frustrée. Alors, c'est intéressant, malgré ses particularités, on aimait Duchesse. Duchesse, c'était Duchesse, c'était notre chat, quoi. Mais elle a commencé à vieillir. On se demandait si elle allait vraiment vieillir. On pensait que c'était peut-être l'exception. Non, pas l'exception. Puis un jour, on a commencé à réaliser qu'elle boitait sérieusement. Elle ne pouvait plus monter les escaliers. C'était compliqué. Puis un jour, elle a simplement disparu. On ne la retrouvait plus. Elle n'était tout simplement plus là. On la cherchait partout. Sa nourriture restait là. Rien ne bougeait. Elle était nulle part. On a demandé à nos voisins s'ils l'avaient vue. Personne ne l'a vue. Rien. Puis un jour, on nous a dit, oui, mais c'est normal. Les chats aiment mourir seuls. Nous avons finalement conclu qu'elle était partie pour mourir seule. C'était horrible. Après 15 ans, Duchesse nous a quittés. Et vous savez quoi? Dieu ne fera jamais cela. Jamais. Non. Il nous dit, jamais je vous délaisserai. Jamais, jamais, ni jamais, ni jamais. Alors peut-être que vous dites en écoutant cela, ouais d'accord John, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je ressens tellement des choses autres que ce que ce texte me dit? Oui, mon ressenti est tellement différent de la réalité. Parfois j'ai quand même l'impression, mon sentiment c'est que Dieu n'est pas là. J'ai l'impression que Dieu m'a tout simplement délaissé, je lui parle, rien, zéro, niet. Il n'est pas anormal de temps à autre de se sentir complètement abandonné par Dieu. Cela peut arriver lorsque nous nous trouvons dans une épreuve qui continue depuis longtemps et qui ne passe pas. C'est les épreuves longues, durées, c'est compliqué. On se dit, mais Seigneur, regarde, je te sers fidèlement. Paf, ça continue. Eh bien, si quelque chose de vraiment horrible nous arrive, un accident, quelque chose d'horrible, maladie, cancer, un truc, n'importe, il y a tellement de choses qui pourraient nous arriver. Mais aussi, lorsqu'on pêche contre Dieu, oui, les chrétiens peuvent pécher parfois de manière horrible et grave. Mais là, ça crée un sort d'éloignement, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Parfois, les pasteurs ou les missionnaires peuvent avoir l'impression que Dieu les abandonne lorsqu'ils ne voient pas les résultats escomptés pour leur travail et leur labeur, ou lorsqu'ils sont dans des situations de conflit d'église, ou que sais-je. Dans ce genre de situation, nous pouvons être tentés de dire « Ouais, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne se soucie pas de moi, il s'en fiche. » Parfois même, on peut aller jusqu'au point dans les grandes épreuves, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe vraiment? On a tous eu ces pensées déjà. Écoutez, c'est intéressant parce que Hébreux 13, 5 dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, question, si Dieu ne m'a pas abandonné, alors pourquoi est-ce que j'ai parfois l'impression d'être si seul et abandonné? C'est une bonne question. Voici la réponse. Parce que tes pensées qui sont motivées par tes émotions te mentent et te trompent. L'ennemi de ton âme veut te garder dans cet épais brouillard de la défaite. Puisque nous ne connaissons pas toujours l'intention spécifique de Dieu dans le fait qu'il nous laisse passer par une période de tribulation, Satan en profite pour nous faire douter de Dieu. N'oubliez pas, Apocalypse 12, qu'il était l'accusateur des frères. Il veut qu'on vive en défaite. Et il ne veut surtout pas qu'on croie les promesses de Dieu. Et donc, il nous fait douter. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de toi? Vraiment? John, tu rêves. Et c'est à ces moments précis que nous devons reconnaître que ceci est une manière de penser qui est erronée et non biblique. Il faut reconnaître ses erreurs et ses mensonges de pensée, les confronter, et puis décider de croire la vérité. Écoutez, c'est une bataille pour notre esprit, c'est une bataille pour nos pensées. Est-ce que je vais croire en la parole de Dieu, ou est-ce que je vais croire ce que je ressens? Alors si tu veux vraiment te planter dans la vie, suis tes émotions. Alors là, je te garantis que tu vas vers la ruine. Non, c'est ça la bataille. La bataille, c'est est-ce que je vais vraiment croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu, et qu'elle est vraie, et qu'elle est juste. Et si j'ai l'impression, je ressens que Dieu n'est pas là, je veux dire un truc, c'est faux. Vous dites, ouais, mais comment tu peux dire ça? Parce que la Bible dit, Hébreux 13:5, il dit, jamais, jamais, ni jamais, jamais je t'abandonnerai, ni je te délaisserai. C'est faux, il est là. Écoutez, peut-être l'exemple suprême de la fidélité de Dieu lors des difficultés hors normes d'un homme dans l'Ancien Testament est celui de Joseph. La vie de Joseph peut être résumée en 5 mots. 5 mots. Le Seigneur était avec Joseph. L'histoire se trouve dans Genèse 37 à 50. C'est une des plus célèbres de la Bible. Alors, lorsqu'il était jeune homme, ses frères jaloux ont vendu leur frère à des trafiquants d'esclaves et il fut pris en Égypte. Alors imaginez, vous avez 11 frères, et d'un jour à l'autre, vos 11 frères se tournent contre vous, ils vous vendent à des esclaves, et là vous vous retrouvez enchaîné dans une caravane d'esclaves en train d'aller en Égypte. Et là tu es dans ton truc, tu es en train de marcher avec tous ces autres esclaves, tu dis, non, mais c'est pas vrai, ça vient de, c'est pas arrivé, je suis en train de rêver. Non, c'était vraiment ce qui s'est passé. Ça a dû être la panique et la consternation la plus totale. S'il y avait un temps dans sa vie où il pourrait se sentir abandonné par Dieu, c'était bien ce jour-là. Or, nous lisons dans Genèse 39, 2, l'Éternel fut avec lui. Il est là, enchaîné, en train de marcher dans le sable chaud, direction l'Égypte, abandonné par ses 11 frères, l'Éternel est avec lui. Il dit, non, là je ne comprends pas. Il arrive en Égypte, il est vendu comme esclave à un chef égyptien qui s'appelle Potiphar, le capitaine de la garde royale, qu'il établissait sur toute la maison. Genèse 39, 3 nous dit quelque chose d'étonnant. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître païen voyait que Dieu était avec lui. C'est quand même remarquable. Mais coup de théâtre. La femme de Potiphar accuse faussement Joseph de viol et Potiphar le fait emprisonner sur le champ. Vous êtes Joseph, imaginez. Comment est-ce que Dieu peut être avec moi? Maintenant je suis accusé de viol en plus. Incroyable. Chapitre 39, versets 20 à 21, il prit Joseph et le mit dans la prison. Donc il va d'esclave, accusation fausse de viol, prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Prochaine phrase, tenez-vous bien, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Vous dites là, je ne comprends pas. Il est maintenant en prison et Dieu est avec lui. Oui, c'est remarquable. Et en plus que Dieu étend sur lui sa bonté en prison. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne le sort pas de prison, du moins pour l'instant. Mais il étend sa bonté sur lui en prison. Donc Dieu est bel et bien avec Joseph en prison dans sa galère. Puis un jour, par la capacité que Dieu lui avait donnée d'interpréter les rêves, Joseph, par un concours de circonstances invraisemblables, interprète un rêve de Pharaon. Pharaon reconnaît en lui l'Esprit de Dieu. C'est quand même marrant, hein. Chapitre 41, verset 38. Et le promeut premier ministre d'Égypte. Il réussit à éviter que l'Égypte se fasse engouffrer par la famine. Et par un geste de reconnaissance envers Joseph, le Pharaon invite toute sa famille à venir s'installer en Égypte afin d'éviter la famine dans le nord et ainsi préserver la famille de Joseph. Israël vient d'être sauvé. Et c'est Moïse, 400 ans plus tard, qui mènera les Juifs dans la terre promise. Et c'est de ce peuple que sortira un jour le Messie Jésus-Christ. Alors, quelle est la leçon dans cette histoire de Joseph? Dieu était avec Joseph. Même si Joseph, de temps en temps, se disait « Non, j'y crois pas. » Non, Dieu ne peut pas être avec moi. Si Dieu était avec moi, je ne serais pas dans cette galère. C'est ce qu'on dit, non? Mais c'est faux. Ça, c'est un faux raisonnement. C'est absolument faux. Dieu ne nous garantit pas la santé, la prospérité, comme certains le prétendent. C'est faux. C'est absolument faux. Non, Dieu était avec Joseph même lorsqu'il était violemment séparé de sa famille, lorsqu'il était en esclavage, lorsqu'il était faussement accusé de viol et lorsqu'il était en prison. Écoutez, les choses ne pouvaient pas aller beaucoup pire pour Joseph. Or, Dieu était avec lui et Dieu accomplissait son plan parfaitement. Et c'est pour ça que le verset le plus célèbre dans cette histoire, c'est Genèse 50-20, où il parle à ses frères qu'il avait vendus en esclaves à la fin de l'histoire et il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » À la fin de l'histoire, il a eu la chance, si on peut le dire comme ça, de comprendre le plan de Dieu. Il s'est dit « Waouh, Dieu a organisé tout ça pour sauver le peuple de qui sortirait le Messie. » Ça, c'est super. Nous n'avons tous pas la chance, j'ai envie de le dire, ou le privilège de comprendre exactement pourquoi Dieu nous permet la galère. Donc, qu'en est-il? Est-ce que Dieu est avec nous ou pas dans les pires moments de la vie? Alors le problème, en fait, c'est même pas la bonne question. C'est pas si Dieu est avec nous ou pas dans les pires moments de la vie en tant que chrétien. Non, le problème, c'est notre doute par rapport à cette vérité. C'est très différent. Dans Jacques 1,8, il nous dit de ne pas douter, car le doute fait de nous des hommes irrésolus et inconstants dans toutes nos voies. Et le contexte, c'est les épreuves dans le verset 2 de Jacques 1. Nous demandons sagesse à Dieu, qui est présent lors de nos épreuves au verset 2. Notre problème, c'est qu'un jour, nous nous reposons sur les promesses de Dieu. Et le lendemain, donc un jour, on se repose sur les promesses de Dieu, on dit « Ouais, ouais, Dieu est avec moi. » Mais le lendemain, on se dit « Non, non, mais il m'a abandonné. » Puis le lendemain, « Non, 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 il est avec moi. » Puis le lendemain, « Non, non, franchement, il n'est pas là. » C'est la galère. « Oui, oui, Dieu est avec moi. » Alors, comme ça, et c'est ce qu'il dit dans Jacques 2. On est un homme irrésolu. Bien sûr que tu vas aller dans la galère, tes émotions ne vont pas suivre, parce que tu ne sais pas ce que tu crois. Voyez-vous, c'est tout ce qu'on pense. Est-ce qu'on croit que cette promesse est vraie? Voyez-vous, les pensées vacillantes qui doutent se produisent des émotions instables, l'anxiété, la peur, le désespoir, le découragement. Lorsque les aléas de la vie nous plongent dans la mélancolie, voire la déprime, eh bien c'est certain qu'on va douter. Dieu veut que nous venions à lui et qu'on reconnaisse en lui seul sa présence. Quelle que soit l'épreuve. Sachant qu'il est là et qu'il marche avec nous dans l'épreuve, comme avec Joseph. Et aussitôt que nous alignons nos pensées avec la promesse de Dieu, les émotions iront mieux, ça c'est sûr. Tu dis, ouais, mais est-ce que Dieu comprend ma situation? Hébreux 13.5, pas plutôt qu'il la comprend. Est-ce qu'il comprend la galère dans laquelle je suis? Absolument. Et je te dirai encore plus, il est avec toi dans cette galère. Et avec moi dans la mienne. Troisième pépite. Abandonnerai. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alors le mot grec pour abandonner, c'est le mot ekkataleipo. Je sais que ça vous aide beaucoup, d'accord? Mais il veut dire ceci, déserter, laisser derrière, relâcher ma prise ou quitter soudainement. Est-ce que vous avez connu de tels abandons dans la vie? Paul a expérimenté cela. Vous vous rappelez dans Actes 13:13. Paul part en voyage missionnaire. Et ce petit verset est intéressant. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Il y avait une équipe, il y avait un jeune qui s'appelait Jean, Jean-Marc, qui a ensuite écrit l'évangile de Marc avec Pierre. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il a dit « c'est pas pour moi, je pars ». Il est rentré à Jérusalem. Mais c'était un coup dur pour Paul, car dans Acte 15, lorsque Barnabas voulait le prendre de nouveau pour un deuxième voyage missionnaire, Paul y dit « absolument pas, je ne veux pas prendre Jean-Marc avec moi ». Le dissentiment entre Paul et Barnabas fut tel qu'ils se sont séparés. C'étaient des amis, des grands amis. Paul avait été si blessé par Jean qu'il préféra se séparer d'avec Barnabas que de prendre Jean avec lui. Alors, ce qui est beau avec l'histoire, c'est que les choses se sont arrangées à la fin. Et dans 2 Timothée 4, 11, il est dit, « Luc seul est avec moi, prends Marc, c'est le même, Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc à la fin, et là on est à la fin de la vie de Paul, les choses se sont arrangées, se sont réconciliées. Mais vous savez ce que ça souligne ici? C'est la douleur d'avoir quelqu'un qui se sépare de vous d'un coup comme ça. C'est intéressant, dans ce même texte que je viens de lire, on pourrait en fait reculer un petit peu et lire quelques versets encore. Regardez, c'est intéressant parce que Paul, il a vécu ça plusieurs fois. On est dans 2 Timothée 4, 10. « Car Démas m'a abandonné. » Ce qu'il dit. « Par amour de ce siècle. » Donc apparemment, Démas était un collaborateur de Paul. D'un jour à l'autre, tchouc, il disparaît pour l'amour du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est seul avec moi, prends Marc et amène-le avec moi car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout le parchemin. Alexandre, regardez, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à ma parole. Donc apparemment, Alexandre a été un ami, ou je ne sais pas exactement, mais à un moment donné, tac! Et dans la première défense, personne ne m'a assisté, verset 16. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Écoutez, si quelqu'un a expérimenté les abandons difficiles de gens dans la vie, c'est bien Paul. C'est bien Paul. C'est intéressant, dans Hébreux 10, 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ah, c'est le même sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on voit qu'un ami, tout d'un coup, pouf, il quitte ton assemblée. C'est compliqué, ça fait mal. Mais écoutez, tous ces exemples, c'est exactement ce que Dieu ne fera jamais avec nous. C'est ça le but ici. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, Dieu l'a fait une fois dans l'histoire. Surtout que c'est Pâques, il faut que je vous donne un exemple du contraire, et ça, vous allez comprendre, c'est vraiment fort. C'est Jésus lui-même. Cet exemple est unique. Vous rappelez Jésus, fils de Dieu incarné, sans péché, est mort à notre place sur la croix. Dans Matthieu 27, 46, Jésus dit quelque chose d'incroyable sur la croix. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu, à cet instant, a abandonné son fils sur la croix. Vous dites quoi? Pourquoi? Ben, afin, écoutez bien, afin justement que vous et moi ne soyons jamais abandonnés par le Père. C'est ça le truc incroyable ici. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Notre péché. Je dois donc mourir pour mon péché, c'est ce que la Bible dit. Et ça veut dire quoi mourir pour mon péché? Ça veut dire que je vais mourir séparé éternellement d'un Dieu saint, puisque je suis encore dans le péché quand je meurs. Donc il y a une séparation éternelle qui commence déjà sur terre, si je n'ai pas été réconcilié avec Dieu, et qui durera pour toute l'éternité. Donc je suis d'emblée séparé avec Dieu. Donc je devais mourir pour mon péché. Lorsque Jésus était lui sur la croix, lui qui était innocent, il a pris sur lui mon péché, a subi la colère de Dieu à ma place. Lui donc a été abandonné par le Père de manière mystérieuse. Car on doit se poser la question, comment est-ce que le Fils éternel de Dieu pouvait-il être séparé du Père? En fait, Martin Luther a tellement cogité cette question, il est sorti de toutes ses réflexions, il a dit, je ne comprends pas. Non, c'est au-delà de notre compréhension. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à un moment donné, d'une manière mystérieuse, le Père a tourné son visage contre Christ, contre son Fils. L'agonie de cette séparation, même à courte durée, était telle que dans le jardin de Gethsémané, juste avant, Jésus supplia le Père trois fois de le laisser, de laisser passer cette coupe. Et il a tellement stressé qu'il a sué du sang et de l'eau, nous dit la Bible. Moi, j'ai déjà sué de l'eau, mais jamais du sang. Ben oui, parce que l'enjeu de porter le péché du monde sur lui, d'être séparé du Père, ça l'a stressé, quoi. Et donc, il fut crucifié et séparé du Père, d'une manière mystérieuse. Mais, trois jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Pâques, mes amis, il a ressuscité. Il est ressuscité. Il est remonté pour être avec le Père. Donc, cette séparation a été de courte durée. Mais sa résurrection et sa séparation à la résurrection est la chose qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. C'est ça qui nous donne cette relation avec Dieu qu'on peut avoir par la foi. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on est réconcilié. Et Dieu est avec nous pendant combien de temps? L'éternité. Oui, parce que jamais et jamais encore, ni jamais et jamais encore, est-ce qu'il va nous laisser ou nous délaisser ou nous abandonner? Jamais. Pourquoi? À cause de son Fils qui a été séparé pour nous. Donc sa séparation fait que ma séparation est nulle avec le Père. Mais oui, pourquoi est-ce que Dieu abandonnerait ceux pour qui il a payé si cher en donnant son Fils? Il nous a rachetés. C'est pour rester avec nous, c'est logique. Et je trouve intéressant dans Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ben plutôt qu'il est avec nous, puisqu'il va la rendre parfaite. Alors mes amis, je résume. Quelle est la promesse, peut-être la plus réconfortante dans toute la Bible? Voici ma version, Hébreux 13:5, d'accord? Jamais. Mais jamais. Mais vraiment jamais. Mais absolument jamais ne vous lâcherai-je, ne vous détacherai-je, ne vous relâcherai-je. Est-ce que je romprai le lien entre vous et moi? Jamais je vous délaisserai, jamais de la vie. Alors, quelle est ton épreuve aujourd'hui? La mort d'un proche? Je ne te délaisserai point et je ne te déserterai jamais. La désertion d'un père ou d'une mère ou d'un mari ou d'une femme ou même d'un enfant, Dieu répond, je ne te délaisserai point et je ne te déserterai jamais. Est-ce que c'est une maladie incurable? Tu te sens seul? Je ne te délaisserai jamais et je ne te déserterai jamais. Est-ce que c'est la persécution pour ta foi? Je ne te délaisserai point et je ne te déserterai jamais. Est-ce qu'il y a des amis qui t'ont abandonné? Je ne te délaisserai point et je ne te déserterai jamais. Est-ce que c'est un problème de chômage et des fins de mois compliquées? Tu as des problèmes d'argent comme ils avaient dans Hébreu? Je ne te laisserai point, jamais. Une saison honteuse de péché dans ta vie, tu as l'impression que tout est perdu? Je ne te délaisserai jamais. Un problème financier difficile? Je ne te délaisserai jamais. Un souci anxieux par rapport à demain? Je ne te délaisserai jamais. Une critique ou une accusation fausse ou injuste, je ne te délaisserai jamais. Est-ce que c'est la solitude? Tu es seul, tu es fatigué d'être l'être? Non, tu n'es pas seul, car je ne te délaisserai jamais. Je ne sais plus quoi faire de ma vie, vers qui me tourner? Je ne te délaisserai point. je ne te déserterai jamais. Je suis fatigué de la vie, tout simplement avec un désir d'en finir, même par le suicide, car je n'ai plus la force de continuer. Je ne te délaisserai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je suis avec toi. Je termine avec ceci. Dans mon culte personnel, cette semaine, enfin, j'ai fini le livre des Actes. Et il y a un truc qui m'a frappé dans Actes 27. Paul est prisonnier, il est sur un navire, en train d'aller à Rome où il doit comparaître devant César. Il est avec plein de prisonniers. Il y a un immense orage qui se déferle sur la mer. Et le bateau est tellement ballotté que tout le monde commence à avoir peur, ils pensent qu'ils vont mourir. Donc c'était vraiment un très très gros orage. Et on est dans Actes 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Donc, il dit, voilà, vous allez tous survivre, mais le navire va couler. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, Paul continue, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Alors moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ils sont au milieu d'un orage, le bateau va couler, il le sait. Et donc, l'ange de Dieu apparaît à Paul pour lui dire que tous sur le bateau seraient sains et saufs, que tout le monde serait épargné. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté l'orage ? Ça aurait été plus simple de dire, bon, parce que Jésus l'a fait, il a calmé les eaux. Dieu aurait pu dire, plus d'orage. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, vous allez couler, mais vous serez tous vivants. Donc vous allez devoir traverser la galère d'un naufrage. Mais je serai avec vous. Je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben, il fallait qu'il y ait cet orage pour que Paul et les autres soient naufragés à Malte, pour qu'il y ait lieu, par le biais de Paul, la guérison et la conversion du chef de l'île, un nommé Publius. Et donc, c'était le moyen que Dieu a fait que pour ce bateau prisonnier qui devait aller à Rome, devait s'arrêter à Malte pour que Publius se convertisse avant qu'il retourne à Rome. Tout ça pour un gars, un homme. Alors, tu te mets dans la place de Paul, tu dis, waouh, t'en vas, mais... Hey, on va couler là. C'est une galère. Dieu dit, écoute, je contrôle tout. Je suis avec toi. Vous connaissez le psaume 23, verset 4. Vous allez le lire maintenant d'une manière complètement différente. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il ne dit pas qu'il va nous épargner la vallée de la mort. Il dit que dans la vallée de la mort, il est avec nous. Amen. Voilà la leçon, mes amis. Moi, je propose quelques minutes de prière. D'accord ? Je ne sais pas comment vous réagissez à tout ça. Mais prenons quelques instants, si vous aimeriez prier à haute voix, c'est le moment de le faire, et peut-être on terminera avec un chant dans quelques instants. Voilà, je propose qu'on se mette tous debout, d'accord ? On va tous se mettre debout, et j'aimerais qu'on prie, que le Seigneur vraiment utilise sa parole ce matin pour nous réconforter. Sentez-vous libre, remerciez le Seigneur pour sa présence. La parole est à vous, juste quelques instants, quelques minutes de prière libre.